Bonsoir et merci d'être avec nous. Donc, pour celles et ceux qui étaient déjà à la table ronde, ben, je vous remercie d'être restés. Et celles et ceux qui nous rejoignent, eh bien, bienvenue. Cette séance est destinée à montrer 12 courts-métrages de Wapikoni Mobile, dont on aura une présentation d'André de Vidomaine qui nous expliquera un peu ce que c'est que Wapikoni Mobile. Moi, je vais d'abord commencer par vous donner un peu l'ordre de passage des films. En fait, contrairement à ce qui est écrit sur le carton, il n'y en aura pas 10, il y en aura 12. Et je vais les citer dans leur ordre de passage qui a été légèrement modifié pour des raisons techniques. Donc ce soir, nous verrons Inou du futur de Stéphane Nepton, qui est Inou. Chant de gorge à Kangersouk, d'Eva Kokai et Manon Chamberlain, qui sont toutes les deux Inuits. Les outils de mon père, Dieter Kondo, qui est Micmac. Rien sur les mocassins d'Eden Awashish, qui est Atikamek. Inuk Hunter de George Ananak, qui est Inuit. Déboire de Delia Gunn, qui est Algonquin. Rêverie de Véronique Picard, qui est Huron Wendat. À ma fille de Melissa Mollen-Dupuis, qui est Inou. Petite chasse de Pamela Basilich, qui est elle aussi Inou. L'amendement de Kevin Papati, qui est Algonquin. Coureur de nuit de Chanouk Newashish, qui est Atikamek. Et Tremblement de terre de Réal Junior Leblanc, qui est Tinou. Et nous aurons aussi la chance d'avoir deux capsules vidéo de présentation, une de Véronique Picard, donc la réalisatrice de Rêverie, et une capsule de Stéphane Nepton, qui est le réalisateur du premier court-métrage que vous allez voir, Inou du futur. Et maintenant, ce soir, nous avons le plaisir d'être avec André Dudemaine, qui a participé à la table ronde de tout à l'heure, donc peut-être que certaines et certains l'ont déjà rencontré. C'est une personne assez importante pour la diffusion et la mise en valeur des cultures autochtones. André, je t'invite à me rejoindre. Il est arrivé de Montréal hier et il est directeur du Festival international Présence autochtone qui a lieu à Montréal depuis les années 90.
Alors, il y a deux mots, Wapikoni puis mobile. Alors, commençons par mobile. Alors, le mobile, c'est vraiment ce que vous voyez là. C'est donc des unités de production sur roues qui permettent l'été, l'hiver, c'est pas possible, parce que c'est destiné aux jeunes des communautés isolées. Alors, souvent, c'est sur des routes non pavées et pas toujours bien entretenues que le mobile emprunte pour aller vers les jeunes des communautés. Et il y a toute une équipe de formateurs, de cinéastes formateurs qui arrivent dans la communauté. Et déjà, il y a eu un travail de préparation de fait par un jeune de la communauté qui est engagé pour mobiliser, expliquer, préparer le terrain. Et quand le mobile arrive avec ses équipes plus spécialisées, les jeunes viennent, ceux qui ont choisi de le faire, viennent réaliser, avec l'appui des formateurs, le film qu'ils ont conçu, imaginé. Et ça, c'est la formule. Séné et Wapikoni, ça veut dire fleur. Mais déjà, c'est intéressant parce que depuis quelques années, on donne des noms en langue autochtone. Hein. Alors, c'est plus seulement Pierre, Jean, Jacques, André, les noms chrétiens. De plus en plus, les parents veulent donner des noms autochtones à leurs enfants. Et effectivement, Wapikoni Awashish, c'était une jeune Atikamekw prénominée Wapikoni, qui veut dire fleur dans les langues dites algonquiennes, là, algonquin Inou. Dans la langue Inou, c'est la même chose, ça veut dire fleur. Et donc, cette jeune fille est décédée dans un accident, puisque son automobile a été frappée par un camion qui transportait du bois, les forestières se nourrissant abondamment et impunément dans le territoire Atikamekw. Et Wapikoni a travaillé avec Manon Barbeau. Manon est une cinéaste et une artiste très, très connue au Québec. qui préparait justement un film en collaboration avec Wabgoni pour qui allait se passer chez les Atikamekw. Et évidemment, quand la mort vient faucher une collaboratrice aussi proche avec laquelle elle avait développé une amitié, elle a dit « je ne peux pas continuer ce film ». Mais finalement, le trauma s'est transformé en projet de donner quelque chose aux jeunes des communautés, et particulièrement ceux des communautés dans lesquelles il y a à peu près pas ou très peu de services culturels qui s'adressent aux jeunes. Alors, on va regarder les films, on pourra parler plus longtemps. Il y a quand même deux remarques que je voudrais faire. Souvent, on dit que le Wapikoni Mobile, c'est un peu comme une école de cinéma. Eh bien, non. Il faut s'enlever ça de l'idée. C'est d'abord une formule de formation et d'animation pour former des leaders jeunesse. Donc, c'est un moyen d'expression qui est fourni. Il se peut, et c'est probable, que parmi ceux-là, il y ait des gens qui vont devenir cinéastes. Mais l'objectif premier est vraiment un objectif de développement social et communautaire. Et s'ajoute à ça, bien sûr, linguistique, et pas un objectif d'arriver à avoir des cinéastes autochtones. Ça sera ou ça pourrait être une retombée intéressante, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'autre chose aussi de très particulier, c'est dans les communautés éloignées, souvent la tradition est évidemment plus prégnante. Et dans la tradition, la personne dans la communauté qui a le droit de parole, les personnes qui ont le droit de parole, ce sont les aînés. Et ceux qui connaissent bien la langue, la culture traditionnelle, qui ont grandi sur le territoire. Et donc, souvent, il y a encore des gens d'un âge certain, puis il y en a de moins en moins forcément, mais qui sont nés, qui ont grandi et qui ont connu la vie en forêt. Donc, ceux-là ont un tel prestige, dans le fond, qu'ils écrasent un peu tous les autres de leur autorité. Sans même être sévère, c'est quelque chose qui imprègne la vie communautaire. Donc, les jeunes là-dedans ne trouvent pas beaucoup leur voie d'expression. Et les jeunes qui réalisent ces documents-là, pour eux, dans leur vie, leur seul horizon, bien sûr, il y a eu des sorties sur le territoire, mais leur horizon, là où ils ont grandi, là où ils ont vécu surtout, puis là où ils ont été scolarisés, c'est la réserve. Donc, il y a tout à fait une autre perspective qui était là et qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, parce qu'il n'y avait aucune expression. Et tout d'un coup, avec ces projets de court-métrage, dans les festivals de cinéma, dans les centres culturels, tout d'un coup, on découvre une vision du monde autochtone que personne n'attendait. Parce que cette génération-là déjà a passé l'étape. Les gens de ma génération, souvent, le père ou le grand-père est encore trappeur. Enfin, c'est mon cas, mon grand-père était trappeur. Alors donc, on est souvent encore dans le regret, hein, dans la nostalgie de ce qui a été perdu. Alors que les jeunes touchés par le Wapikoni, eux veulent se projeter dans l'avenir, ben, dans le présent d'abord. D'ailleurs, le titre « Nous du futur » est bien évocateur là-dessus. Ils sont bien sûr bien fiers de tout ce qu'il y a avant, mais ils veulent vivre au présent de l'indicatif et se projeter dans le futur. Et là, tout d'un coup, ils ont un moyen d'expression. Et tout d'un coup, c'est reconnu, ils voyagent, ils se rencontrent. Donc, ça a été extrêmement salutaire comme opération. Et Sipi Flamand, ça je tiens à le citer, Sipi Flamand, un des jeunes qui a fait plusieurs films et qui vient de la communauté de Wapgoni en plus, de Manoan, qui a fait plusieurs films avec le Wapikoni, a été élu il y a un an chef de sa communauté.
Et j'avais juste une dernière question avant de commencer les films, parce que ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il ne faut pas confondre Wapikoni Mobile avec une école de cinéma. Et ce qui est intéressant, justement, c'est peut-être leur façon de faire, qui est une méthode propre à eux, mais qui peut potentiellement s'exporter. Et je pense même que là, Wapikoni Mobile ouvre ses perspectives autre part que dans les nations autochtones canadiennes, mais commence même à exporter un peu cette façon de faire. Est-ce que tu peux expliquer cette manière d'accompagner sans forcément formater ou sans donner déjà des prérequis sur des points de vue cinématographiques.
Oui, alors une des critiques qui est parfois adressée aux apiconés, ils disent que ce n'est pas les jeunes vraiment qui ont réalisé ces films-là, puisqu'ils ont à leur disposition des formateurs qui sont beaucoup plus savants qu'eux dans le domaine du cinéma. Moi, ma réponse à ça, déjà, s'il y a quelqu'un qui doit former un autre, aussi bien qu'il soit plus avancé que son élève, hein, sinon on n'avance pas beaucoup. Un. Et deux, regardons le générique des films. Hein, même les plus grands cinéastes, ils ont peut-être 300, 400, quand c'est des projections, des productions un peu importantes, des effets spéciaux, des costumiers, des éclairateurs, des... Puis je ne sais plus quoi, des conseillers, des gens au casting. Une réalisation, ça ne se fait jamais seul, d'une part. Et d'autre part, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les cinéastes formateurs, d'eux-mêmes, tout seuls dans leur univers particulier, n'auraient jamais réalisé les films du Wapikonis avec des jeunes autochtones, ça ne leur serait pas arrivé. D'ailleurs, il y en a là-dedans que les films qui ont été faits par les jeunes autochtones avec eux, c'est meilleur que tout ce qu'ils ont fait par ailleurs dans leur carrière professionnelle. Alors donc, il y a là un phénomène de rencontre, voilà, c'est là que je voulais en venir, et de rencontre culturelle extrêmement importante qui a lieu à l'intérieur même. Et c'est donc que des gens avant... Il y a beaucoup de jeunes autochtones que je vois à Montréal maintenant, puis qui me saluent quand je les rencontre. Ah, ben, ils me disent, je couche sur le divan chez un tel, je couche sur le divan chez un tel. Avant, ils connaissaient pas vraiment de monde dans la métropole, donc ils étaient enfermés chez eux. Et comme on dit souvent, il faut sortir de la réserve. Hein? Parce que la réserve, c'est sûr que oui, c'est un lieu communautaire, oui, c'est un lieu de solidarité, oui, c'est un lieu de transmission de la culture, mais c'est aussi un lieu où on étouffe. Hein, Sherman Alexie, l'écrivain américain, disait, n'oublions jamais que les réserves n'ont pas été créées pour que les Indiens y vivent, ils ont été créés pour que les Indiens y disparaissent. Alors donc, c'est important aussi ce contact avec l'extérieur et le contact aussi parce qu'il y a des projections de films dans les festivals et surtout le 15 octobre là à Montréal, il y aura une projection de tous les films qui ont été produits durant l'été et avec la post-production, c'est au mois d'octobre qu'ils sont prêts. Et là, les cinéastes viennent de partout pour... du Québec et maintenant du Canada, pour montrer leurs films et se rencontrent entre eux. Donc, en plus, il y a tout un lien qui est créé, des liens de solidarité qui brisent cet isolement et qui brisent le fatalisme aussi, parce que le fatalisme est très fort dans les communautés. Je me souviens, c'était au siècle dernier, un cinéaste, Arthur Lamotte, qui est peut-être un peu l'oublié de cette rétrospective, c'est pas un reproche, on peut pas tout mettre, mais avait réalisé, c'est un documentariste, il avait réalisé un film de fiction, Le silence des fusils, et on avait demandé à un des autochtones qui jouait dans le film, est-ce que, comme Arthur avait surtout fait des documentaires, on avait demandé à ce jeune homme, est-ce que c'est un film de fiction vraiment? Alors, il a répondu oui, parce qu'à la fin, les Indiens gagnent. Alors, donc, c'est drôle, mais en même temps, c'est très significatif d'un état d'esprit qui encourage une apathie, parce que les gens sont habitués à... ont vu toute l'histoire où ils ont été ratatinés et où ils se sentent souvent infériorisés par rapport à ce que leurs ancêtres et souvent leurs aïeux plus immédiats ont vécu. Alors, ça, vraiment, il y a un déblocage qui s'est fait. Et ça l'a entraîné, effectivement, une reconnaissance internationale qui fait que maintenant, il y a des collaborations avec le Wapikoni partout dans le monde. Je sais qu'il y a eu des formateurs du Wapikoni qui sont allés en Palestine occupée, chez les Mapuche. Je sais que Manon m'avait envoyé au lac Boudi, où il y a une communauté Mapuche qui reçoit aussi l'appui du Wapikoni mobile. Et là, quand ils ont monté les films, ils avaient mis Wapikoni présente, et les Mapuche ont dit non, la télévision Mapuche présente en collaboration avec le Wapikoni Mobile. Alors évidemment, c'est bien comme ça que ça a été présenté. Mais tout ça pour dire aussi que cette rectification Mapuche, il y a quand même une vérité qui est énoncée, c'est que le Wapikoni est aussi un appui pour la souveraineté des Premières Nations.
Merci beaucoup, André. Je vous souhaite une bonne séance.
Je lance la machine.
Oui, petite note, on parlait tantôt de ceux qui ont le talent de cinéaste, Réal Junior Leblanc, le dernier film qu'on vient de voir, est un de ceux, parce qu'il y a une approche à la fois de film poétique, où sa voix narre, qui est très originale. Et là, je sais que Denise Robert, qui est la productrice des films de Denis Arcand, celui cinéaste québécois archi connu, là, Le déclin de l'Empire américain. Donc, il peut avoir une formation dans la boîte et avec Denis Arcand. Donc, c'est quelqu'un qui est vu comme... Lui pourrait avoir éventuellement une carrière qui dépasse les cours du Wapikoni.
Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je ne sais plus quand a commencé, j'ai oublié ce que vous avez dit, le Wapikoni mobile, mais... ça fait combien de temps en fait qu'il y a des jeunes qui travaillent? Bon, c'est vrai que c'est super poétique. Ma question, ce serait, vous parliez de, c'est en fait une école pour former des leaders véritablement, c'est-à-dire des personnes qui vont être engagées, qui vont s'impliquer dans la communauté pour la souveraineté, pour la reconnaissance, bon, etc., etc. Est-ce que déjà Vous connaissez des jeunes qui ont commencé un peu au début du Wapikoni et qui aujourd'hui peut-être font plus de films avec Wapikoni, mais sont dans leur communauté ou en ville, enfin à réaliser, enfin d'autres par d'autres moyens leur contribution.
Oui, ben justement, je parlais tantôt de Sipi Flamand. D'ailleurs, il a fait les manchettes parce qu'on est en campagne électorale au Québec et il a, comme chef de sa communauté, qui a été élu quand même, c'est pas un gars très vieux, là, il a plus 18 ans, là, mais il doit être début trentaine pour être élu chef autochtone à cet âge-là, il faut vraiment avoir une force de leadership. Et il a interpellé Legault, là, le premier ministre du Québec, qui est en réélection, et ça l'a fait les manchettes. Donc déjà, c'est une voix qu'on entend. Une autre histoire aussi qui me touche assez, la première année du Wapikoni, je suis arrivé, et c'est drôle parce que je revenais de France, j'avais été invité au Festival de Trouville, je ne sais pas si vous connaissez le Festival de Trouville, c'est un festival de court-métrage international, et on m'avait demandé de programmer un certain nombre de films autochtones, de court-métrage, et j'y étais allé, au mois de juin, le Festival Présence autochtone était au mois de juin à l'époque, on avait symboliquement fait démarrer le mobile du Wapikoni pour sa tournée. Et là, je reviens, et vous allez voir que c'est daté de l'époque, j'ai une cassette sur mon bureau, et c'est Manon Barbeau qui a écrit « Première mouture de la tournée du Wapikoni ». Et je vois là-dedans, je les vois, et tout à coup, je vois un rappeur qui est de la communauté de Pikogan, en Abitibi, et qui s'appelle Samuel Tremblay. Et je dis, mon Dieu, c'est pas mal son truc, c'est bon ce qu'il fait, il est tout jeune, hein, 19-20 ans. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à Trouville, il y avait aussi, j'avais rencontré un groupe québécois qui s'appelle Loco Locas, qui sont des slameurs, rappeurs archi-connus, hein, vraiment des vedettes au Québec. Et le leader, là, Sébastien, surnommé Biz, Je le trouvais énervant comme tout, parce qu'il sautillait partout par l'effort et tout. Enfin, bref, tout à fait l'anti-autochtone par excellence. Et il était venu me voir, il a dit, c'est toi qui as amené des films autochtones. Il a dit, moi, j'aimerais collaborer avec un artiste autochtone. Alors, j'ai dit, toi, mon nationaliste québécois, je t'attends. Alors, je lui ai dit, oui, j'ai dit, j'en connais, mais il chante en anglais. Il slam en anglais. Alors, il me dit, oh, là, je le vois, là, il pense. Mais là, où j'ai changé d'idée sur le personnage, il m'a dit, écoute, j'aimerais mieux qu'ils slament en langue autochtone, mais s'ils sont capables de faire du bon rap en anglais et que ça a autant de signification pour eux que pour moi, faire du rap en français, oui, je suis prêt à collaborer. Alors, j'ai fait, oups, il est peut-être plus intéressant qu'il en a l'air. Alors, de retour, effectivement, je vois la vidéo avec ce court clip. Et là, j'appelle les gens de la colocation. Je dis, venez au bureau, on va regarder quelque chose ensemble. Alors, on regarde les deux clips qui avaient été faits à Picogan avec Samian. Et là, les gars, le biz, les deux autres me disent, oui, mais pourquoi il ne rappe pas en algonquin? Ben, j'ai dit, écoute, moi, je ne connais pas son histoire à lui, mais si je devais faire un pari, c'est probablement qu'il a été amené à Amos et a grandi hors communauté. Il doit encore entendre, comprendre l'algonquin quand c'est, les aînés parlent, mais il ne doit pas l'avoir appris pour le parler. Et puis, en plus, il voit, il vit dans une société québécoise et les artistes qui brillent, qui vont être en vedette, c'est des... ils parlent français. Ils me disent, oui, mais ce serait mieux qu'ils rappent en algonquin quand même. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, Biz, tu peux m'aider. J'ai dit, on va s'organiser. Puis c'est toi qui vas lui dire de rapper en algonquin. J'ai dit, si je lui dis ça, il va dire, toi, le vieux monon, ne viens pas de mêler de ma vie, hein? Mais si c'est une vedette connue et admirée qui lui dit ça, qui a fait son chemin dans le vedettariat, oh là, attention, là il va prendre ça au sérieux. Alors, effectivement, il y avait les cinéastes du Wapikoni qui arrivaient en octobre pour la première de ces fameuses séances qui reviennent année en année depuis. Et là, il y avait un souper la veille chez une des appuis au Wapikoni. Tous les jeunes étaient là. Et là, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai dit devant tout le monde comme ça, j'ai dit, Samian, après la présentation de ton film, tu vas rencontrer Biz des locaux locas. Là, un grand silence s'est fait. Là, je me suis rendu compte comment ces gens-là étaient jeunes, entre 16 et 19 ans. Et lancer le nom d'une vedette comme ça au milieu de la place, puis dire, il va être là demain, c'était énorme. Alors, effectivement, le lendemain, et là, Biz m'a encore surpris, parce que moi, je pensais qu'il allait juste dire à Samuel, travaille l'algonquin, puis on se reverra, hein, mais c'est la bonne piste à avoir. Mais tout de suite, d'emblée, il rencontre et lui dit, écoute, je t'invite à notre prochain lancement de disque. On va envisager des collaborations culturelles. Tu pourrais être sur la scène avec nous, mais à une condition, c'est que tu aies des pièces en algonquin. Le jeune a dit, mais je vais aller travailler avec ma grand-mère. Et assez magnifique, probablement le seul slameur au monde qui travaille avec sa grand-mère, c'est Samian. Mais Samian, parce qu'il n'était plus Samuel, il était Samian, le nom, l'algonquinisation de son prénom, est maintenant une grande vedette au Québec. Il joue dans des films et son dernier disque, on l'a lancé il y a 2 ans au festival Présence autochtone, 100% en langue algonquine. Et il y a eu un truc assez curieux. Il y a un festival de chansons francophones qui l'a invité récemment. Et on a voulu lui mettre un quota d'algonquin. Et là, ça a fait toute une histoire. Et maintenant, l'ensemble des festivals au Québec, pas Présence autochtone, bien sûr, mais les autres festivals au Québec qui défendent la chanson française, ont dit non, maintenant, on ne va plus faire de ségrégation contre les langues ancestrales. Si un autochtone veut chanter dans sa langue, on le reçoit chez nous, puis c'est comme ça. Alors, donc, c'est quelqu'un, ça a commencé, ce petit moment où il est allé interpréter à 19 ans un chant pour le Wapikoni a fait toute la suite.
Bonsoir. J'ai trouvé le film Rêverie par Picard. Picard, j'ai retenu le nom parce que c'est les surgelés. J'ai trouvé ça magnifique et très bien écrit. Est-ce que ça va déboucher sur un livre ou sur un autre film plus long?
J'ai je trouvé ça pas, magnifique. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Par contre, effectivement, ça a été tourné à Wendake. C'est une communauté près de Québec. Donc, à la fois, c'est une communauté où les... j'ose pas dire les pertes culturelles, mais certains repères culturels, dont la langue, ont été vraiment perdus. Mais d'un autre côté, ils ont développé une facilité pour le français, l'anglais, les habiletés de communication et de commerce. Il faut dire qu'en plus, c'est une nation de commerçants traditionnellement. Alors, il y a beaucoup d'efforts, même des efforts pour réimplanter la langue Wendat, qui est une langue morte, pas disparue, mais morte dans le sens qu'elle est plus parlée. Et avec des linguistes, on essaie de la rebâtir et tout le moins de la remettre en usage, ne serait-ce que pour des usages cérémoniaux. Alors, c'est quand même une communauté drôlement intéressante, mais ça explique aussi l'habileté qu'ils ont de rejoindre un public français, puisque le français pour eux est la première langue. Voilà.
J'ai trouvé ça vraiment d'une très grande poésie.
Oui, c'est très beau, en effet. C'est magnifique. Et c'est intéressant parce qu'elle nomme aussi bien les choses. On voit vraiment la guérison. Et le suicide, voilà, on pourrait penser que le suicide chez les jeunes, effectivement, les taux sont dramatiques, hein, ils sont 5 fois, 6 fois, 7 fois la moyenne canadienne dans les communautés autochtones, et probablement 10, 12 fois chez les Inuits. Mais ça touche aussi la communauté de Wendake, chez qui ils sont plus riches, oui, plus prospères, il n'y a pas de grande pauvreté comme on voit ailleurs, et pourtant, le phénomène du suicide des jeunes existe là aussi. Donc, c'est pour dire que ce mal à l'âme est vraiment généralisé. Et des interventions comme le Wapikoni, justement, elle le nomme très bien, sont à la fois des outils de développement, et de guérison et d'affirmation.
Mais est-ce que ça peut être un tremplin pour faire d'autres films pour ceux qui ont fait leur court-métrage?
Oui, ben généralement, les gens qui ont fait un premier cours avec le Wapikoni, à une autre escale, quand le mobile repasse, sont souvent les premiers contactés ou les premiers à se proposer pour en faire un autre. Alors oui, probablement qu'elle en aura d'autres bientôt. Oui.
Oui, et comme tu disais, André, par exemple, Réal Junior Leblanc, qui a réalisé le dernier film, là, est accompagné pour, je pense, des prochaines réalisations. Et il me semble que Kevin Papati, qui a fait l'amendement que vous avez vu, a aussi réalisé d'autres films. Mmh. Et aussi, par exemple, Chanouk
Newashish.
Newashish, voilà. Lui, par exemple, il est devenu accompagnateur aussi à Wapikoni Mobile. Et donc, il forme maintenant des personnes qui veulent faire partie d'une escale de Wapikoni Mobile. Donc, en fait, c'est aussi des personnes qui vont transmettre ce qu'ils ont pu apprendre et développer dans leurs films et qui vont les transmettre à des futures générations. Et juste pour répondre à votre question, madame, ça existe depuis 2004, Wapikoni Mobile. Mmh. Et il me semble que donc il y a quand même au moins, je sais pas, il y a au moins un millier de films qui a été réalisé depuis 2004 au sein de Wapikoni Mobile. Et après, je suis pas sûre, et là tu pourras me corriger, André, mais j'ai cru comprendre qu'il y a certains films Wapikoni Mobile qui sont réalisés au moment d'une escale et qui parfois servent simplement d'outils d'expression. Pour essayer aussi, par exemple, de faire de la médiation ou de communiquer une idée, une pensée qui est peut-être douloureuse et complexe et qui, en fait, est projetée uniquement au sein de la communauté pour être un outil de communication au sein de la communauté. Et donc il y a certains films Wapikoni Mobile dans les milliers qui ont été produits qui ne nous sont jamais arrivés à nous, par exemple, parce qu'ils ne nous sont pas particulièrement destinés. Et ce que j'ai aussi cru comprendre, mais après tu me corriges aussi André, c'est qu'il y a certains films qui sont réalisés par une première venue de Wapikoni Mobile par des jeunes, et qui sont des films justement qui servent à la communauté, mais qui sont des films parfois de douleur, de colère, et parfois à la deuxième escale, c'est là où la personne qui a réalisé un premier film réussit à faire un deuxième film qui là peut être davantage montré et même peut-être reçu par d'autres personnes hors communauté.
Oui, alors c'est tout vrai. Il y a des films, effectivement, ben, souvent c'est le ou la cinéaste en herbe, on nous demande toujours si elle ou elle veut que son film soit diffusé, parce que c'est souvent on le voit bien, des trucs très personnels, et il y en a pour qui cette douleur, c'est trop intime, ils veulent pas... Alors, il y en a qui ne sont pas du tout diffusés, hein. Il y en a aussi qui sont destinés à la communauté, d'autres aussi pour tout simplement parce que le film parfois demeure très sommaire, ceux-là on peut arriver à des étapes assez élaborées, mais parfois c'est des débutants, hein. Alors parfois la première œuvre n'est pas... On ne veut pas vraiment la montrer. C'est un exercice de style pour la formation. Alors, ça, il y a ça aussi, bien sûr, oui. Alors, et puis, généralement, le premier film est un autoportrait. Hein, c'est le premier exercice. Donc, après que cette étape-là est passée, bien, souvent, la personne veut justement se tourner vers d'autres sujets proches ou lointains.
Et aussi pour rebondir sur ce que tu disais, André, par rapport au taux de suicide qui était important chez les jeunes dans les communautés autochtones, il m'a semblé comprendre que Wapikoni, je ne sais pas si c'est encore le cas, recevait justement des subventions du ministère de la Santé parce qu'il était considéré comme outil thérapeutique et qu'il permettait aux jeunes de la communauté d'avoir une activité qui les sortait aussi parfois de certaines douleurs parce qu'ils réussissaient à s'exprimer.
Absolument.
À se représenter.
Mais ça vient aussi du talent de la personne qui court après le financement pour que les escales soient... Elle est allée dénicher tous les fonds possibles dans celui-là. Oui, il y a eu une année, il y avait des fonds c'était pour préparer les gens, c'était pas une formation à l'emploi, mais une formation à l'employabilité. Alors, effectivement, on peut penser que des gens qui ont peu de formation, qui sont souvent des drop-out de l'école, le fait de passer à travers un processus comme ça peut les préparer à entrer sur le marché du travail. Mais il y a une sous-ministre à Ottawa, à un moment donné, qui avait coupé ses fonds, elle disait « vos statistiques ne le montrent pas ». Elle est démontrée, fallait voir d'où ça part, et il avait coupé les fonds. Et là, je cherche son nom, la personne responsable au financement, elle s'est retournée vers un autre ministère où il y avait des fonds pour la prévention de la criminalité. Alors elle a dit, voilà, et là elle a réussi à combler le déficit en allant chercher les fonds là. Alors c'est assez épique parfois.
Ah, il y a une question.
Non, je me posais aussi la question de la réception et de la diffusion locale dans les communautés. Ça a été créé en 2004. Est-ce qu'au début, il y a eu des résistances, enfin, cet outil qui est surtout utilisé par les Blancs, comme elle dit dans les mocassins. Est-ce qu'il y a des anciens Est-ce que le Wapikoni était une initiative des communautés, enfin, de membres de la communauté en ville, ou enfin, ce rapport-là au cinéma au début, quel était-il?
Faut dire que dès le départ, comme je le mentionnais plus tôt, Manon a déjà travaillé avec la PNQL et des leaders communautaires pour développer le projet. Donc déjà, c'est un projet qui était attendu et qui était supporté par les structures de représentation autochtones. Il y a pu avoir, oui, parfois, ici et là, mais de façon localisée, des frictions. Je sais, une fois, ça avait fait toute une histoire, c'était la communauté parce qu'il y avait un jeune qui avait avoué son homosexualité dans un film. Et dans la communauté, ils n'étaient pas prêts à accepter ça. Ils n'ont pas voulu que le film soit diffusé. Et là, ça avait créé une commotion. Je sais qu'il y a des gens qui ont claqué la porte du Wapikoni à ce moment-là. Et d'autres qui ont resté disant, ben, ça fait partie du processus à long terme. Il y a parfois des blocages auxquels il faut se plier temporairement puis espérer que les choses s'amélioreront. Mais là, je vous raconte quelque chose qui est très... probablement des histoires comme ça, il n'y en a même pas de quoi remplir les doigts d'une main. Alors, dans l'ensemble, ça a été très bien reçu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup et bien reçu hors communauté, vraiment dans les écoles, dans les centres culturels, dans les festivals, partout où les films sont montrés. Et l'accueil est vraiment excellent. Alors ça c'est vraiment formidable et ça a aidé beaucoup au développement parce que quand comme ils ont pu démontrer non seulement que ça avait un impact fort dans les communautés mais aussi dans l'idée d'un dialogue interculturel, je vais pas dire réconciliation, dans un dialogue interculturel, ben là ça l'a amené aussi beaucoup beaucoup d'appui. Pour que le projet puisse persévérer, continuer, grandir.
Je ne sais pas si c'est le sujet, mais parce que ça fait la deuxième fois que vous parlez de réconciliation d'une certaine manière. Alors, vérité, oui, la première fois, vous avez dit réconciliation, trois points de suspension. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur cette notion-là ou comment vous... Voilà.
Oui, parce que c'est important. Disons, je ne suis pas carrément hostile à l'idée qu'il y a derrière, mais d'abord, il y a deux choses. Réconciliation, souvent, le plus souvent que le mot est employé, c'est quand deux amis ou deux amoureux se disputent. Après, ils se réconcilient le lendemain. Alors, ça semble quelque chose de très facile à faire. Et ensuite, ça laisse supposer que les deux parties ont leur tort. Alors que dans ce cas-ci, il y a vraiment une partie coloniale, puis une partie affectée par le colonialisme. Donc, les torts ne sont pas également partagés. Effectivement, moi, j'aime mieux parler de décolonisation. Et c'est un processus à long terme. Et ce que je reproche au mot réconciliation, c'est de masquer, non pas d'être une mauvaise idée, mais ça masque un peu les difficultés qu'il va falloir affronter, tout le chemin qu'il va falloir parcourir, et puis le temps que ça va prendre. Et alors donc, c'est pour ça que ça m'agace, voilà.
Merci d'avoir amené ces films. D'ailleurs, je me demandais comment
ils ont... Je ne les ai pas amenés, ils ont été programmés.
Oui, bravo et merci aux personnes qui nous les font parvenir parce que c'est génial. Justement, pour rebondir sur le processus de décolonisation, moi, je trouve que ces films, ils sont très, très forts et très marquants parce que c'est comme le contre-champ des films... d'il y a un peu plus de 100 ans ou des films qu'on peut qualifier d'expédition, enfin ciné-expédition, c'est-à-dire les films pour accélérer le processus de, enfin je ne sais pas si on peut dire processus, mais en tout cas l'action colonialiste et ça déborde les frontières du Canada. Moi, je suis toujours très très sensible aux questions qui sont posées ici par les films et sur chacun des territoires sur lesquels j'ai pu aller, où ces questions se sont posées, parce que ça résonne très fort avec la France et avec l'ancien empire colonial d'où nous sommes issus. Et quand on a une culture mixte, métisse, et notamment un des parents issus d'un des anciens pays colonisés par la France et qu'on a perdu la langue de ses ancêtres et son histoire parce qu'il n'y avait pas de traces, c'était une culture orale, ça résonne énormément avec voilà, les tragédies connues par les peuples autochtones ailleurs. Et donc merci aux cinéastes, si vous pouvez leur transmettre, d'ouvrir comme ça tout un champ d'exploration pour l'avenir. Et justement, je me demandais si les ciné, les Wapikoni mobiles allaient dans les territoires qui sont très isolés et qui parcourent le passage du Nord-Ouest, donc de Pond Inlet à Tuktoyaktuk, en passant par Cambridge Bay, je ne me rappelle plus le nom autochtone, mais qui sont coupés parfois du monde pendant 2 ans si la glace n'ouvre pas, enfin si le passage n'ouvre pas. Et voilà, est-ce qu'il y a des films issus de ces territoires-là, du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest, s'il vous plaît?
Bon, au départ, évidemment, là où il n'y a pas de route, c'est le cas des villages dont vous mentionnez dans l'extrême nord, donc le Wapikoni ne s'y rend pratiquement jamais. Il y a eu des demandes d'organisations culturelles inuites, donc il y a eu aéroporté des équipes de formation qui y sont allées. Alors, le film où on voit le Katadjak, le jeu de gorge, c'est effectivement résulté d'une de ces escales-là. Dans les villages inuits, je ne sais pas comment cela est distribué, puis je ne suis pas sûr que les Inuits se reconnaissent dans la plupart des films, parce que ça a été réalisé surtout avec les populations dites amérindiennes. Et les Inuits ne se reconnaissent pas toujours immédiatement. Il y a une solidarité, oui, il y a une compréhension, oui, mais les Inuits ayant une culture très, très, très particulière, une histoire très, très, très particulière, ils tiennent vraiment à leur inuitité et ça crée une certaine distance. Oui.
Mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est que cette inuitité, elle est quand même très... Enfin, il y a déjà énormément de ce qu'on voit dans les films qui est à l'œuvre et depuis longtemps, sur, justement dans ces territoires-là, parce que c'est sur le passage des énormes paquebots de croisière, enfin, canadiens et français d'ailleurs,
maintenant avec
des compagnies des places, oui. du National Geographic et de Ponant, la compagnie Ponant aussi passe par là. Donc, du coup, ce que j'ai pu observer, moi, c'est vraiment une forme d'américanisation, en fait, de ces peuples. Et je trouvais ça triste, mais en même temps, c'était comme une sorte de... Comme si j'avais... Enfin, c'était un peu ethnocentré aussi, de penser comme ça, parce que pourquoi il n'y aurait pas une évolution aussi
Mais cela dit, les Inuits, l'isolation a au moins une qualité, c'est qu'effectivement, ça limite les contacts. C'est moins vrai maintenant avec Internet. Mais même là, la qualité de l'Internet dans le Grand Nord n'est pas du tout ce qu'on connaît dans le Sud. Donc, puis la langue est encore vivante, là, l'Inuktitut est parlé, enseigné, et puis avec la sensibilisation actuelle, il y a beaucoup de choses qui ont été rattrapées à temps. Le Katadjak, dans les années 90, il y avait à peu près, je pense, dans le nord du Québec, une douzaine de femmes, toutes très âgées, qui le pratiquaient encore. Et tout d'un coup, il y a quelques jeunes dames qui ont commencé à l'apprendre, et c'est devenu maintenant, toutes les jeunes Inuits veulent pratiquer le Katadjak, l'apprennent, et vous voyez ces femmes toutes jeunes là, qui le pratiquent. Donc, non, moi, je ne vois pas d'américanisation chez les Inuits. De toute façon, les Inuits, comme les Autochtones, nous sommes bien Américains. Voilà. C'est les populations euro-américaines qui devraient s'américaniser. Oui, parce que effectivement, c'est le comment dire. C'est une sorte de drame existentiel qui est très répandu. D'abord, toute la culture ancienne reposait sur un accès et une productivité biologique énorme sur le territoire, et beaucoup dans le Moyen-Orient sur la traite des fourrures. Or, on le sait maintenant, la traite, d'abord, il y a plus, les forêts ont beaucoup été coupées, affectées. Il y a beaucoup moins d'animaux. C'est plus dur d'aller les chasser. Il y a encore quelques trappeurs, mais et puis en plus le marché est moins important. Alors d'une part, puis d'autre part, maintenant il y a la scolarisation, la nécessité de vivre dans le monde contemporain où les langues et le savoir traditionnel n'est pas présent. Mais il faut quand même y vivre. Donc, il y a des synthèses à faire. Souvent, le point de départ, c'est justement l'expression de cette séparation-là. Et souvent, le point de départ, justement, à des manières d'être, inventer une manière d'être qui fera qu'il y aura que l'Innu du futur, voilà, comme Stéphane le dit dans son film, pourra réconcilier à la fois son héritage auquel il doit se reconnecter. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Je connais ce gars-là et je sais ce qu'il fait maintenant. Donc, c'est très sérieux ce qu'il dit dans son film. Et d'une part, et son existence contemporaine. Enfin, on peut le dire, là, dans ce cas-ci, les trucages, on pourrait penser que c'est l'équipe du Wapikoni, pas du tout. Stéphane Nepton est un spécialiste des effets spéciaux en numérique puis de la réalité virtuelle. Et par contre, il n'a pas connu l'univers traditionnel et maintenant il a fondé une association, un peu comme le Wapikoni, mais pour initier les jeunes aux techniques numériques. Et là aussi, il collabore avec plein de communautés, avec plein d'artistes autochtones. Alors là, encore une fois, on peut voir une fusion, si on peut dire, entre un savoir contemporain et l'existence de communautés qui veulent se rattacher à leur tradition. Mais évidemment, tout n'est pas que rose et chemin radieux. Hein? Il y a des difficultés et c'est comme ça. Voilà.
Et juste peut-être pour venir nuancer cette impression que vous avez eue, après, c'est peut-être parce que c'est moi qui ai sélectionné les films, donc il y a quand même des choses que j'ai voulu peut-être faire passer et qui ne sont pas passées. Mais par exemple, dans le film avec le jeu de gorge, ben c'est justement une tradition qui est complètement réappropriée par des femmes qui sont très jeunes. Dans les outils de mon père, c'est aussi des gestes traditionnels, mais qui sont perpétués en silence. Et on voit, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le père vraiment de la cinéaste, mais on voit quand même une tradition qui est perpétuée, qui est observée, qui est voilà. Et après, par exemple, rien sur les mocassins, même si elle dit que sa grand-mère ne veut pas en parler, elle continue à faire elle apprend à faire les mocassins avec sa grand-mère, parce qu'à la fin du film, on voit la bobine du fil qui tourne, et donc c'est qu'elle va apprendre ce savoir-là grâce à sa grand-mère, et simplement, ça nous est pas destiné, ce savoir. Et pareil, dans Petite Chasse, on voit cette mère qui va avec sa fille dans les bois pour chasser les petits gibiers, qui essaye de lui transmettre la langue, et même si elle dit oui, effectivement, elles parleront jamais peut-être aussi bien que moi la langue, ben, au moins elles pourront me comprendre. Et donc j'essayais en tout cas aussi dans cette programmation de pas donner qu'un aspect évanescent de cultures qui vont disparaître, mais aussi de montrer toutes les manières de faire pour qu'elles se transmettent, pour qu'elles évoluent et qu'elles puissent continuer de manière différentes aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Mais
il y a une question aussi en avant.
Merci. Je vous demander si Wapikoni travaille avec des personnalités des Premières Nations telles que Sheila Watt Couturier, qui était récemment au Centre culturel canadien puisqu'elle était au Festival américain, donc qui semble être une figure connue et qui j'y sens parce que je la connaissais pas avant, et qui marque sa culture inuite et qui a des exigences là-dessus et des revendications. Est-ce qu'elle, Il y a des relations avec des personnalités comme ça qui peuvent être des locomotives en même temps et être un vrai soutien, je suppose.
Oui, effectivement, il y a plusieurs artistes autochtones qui appuient complètement le Wapikoni ou qui agissent dans leur propre créneau. Mais la fille de Sheila Watluti, son nom va me revenir, elle-même fait des spectacles très contemporains où elle va mêler le chant de gorge puis la musique électronique. Alors donc, ne serait-ce que par filiation déjà, chez la voix de Cloutier, qui est d'abord une grande leader au niveau de porte-parole pour les changements climatiques et les conséquences dans le Grand Nord, c'est considérable. Sa progéniture... avec qui est allée peut-être à une sorte de petite chasse avant, et maintenant impliquée justement dans des projets culturels où il y a une insertion totale dans le paysage artistique contemporain, mais en amenant tout le bagage de la tradition. Et c'est important pour les jeunes, hein, parce que, et c'est pour ça aussi que la forme film, la forme audiovisuelle est importante. Ouais. La vidéo n'est pas une technique traditionnelle autochtone, hein, tant s'en faut. Par contre, le fait de se voir à l'écran, de pouvoir être dans des salles de cinéma, dans des festivals, à partir de leur propre production, de leur propre communauté, ben pour les jeunes autochtones qui autrement se sentiraient isolés, désespérés, méprisés, tout d'un coup, c'est une fierté. Et donc, le premier facteur, si on veut qu'une culture survive, c'est que les jeunes aient le goût de se l'approprier. Parce que là, on peut toujours leur chanter toutes les chansons. « Ah, oh, ta langue s'en va, sa langue s'en va. » Il va faire « Oui, ma langue s'en va, ma langue s'en va. » Il sera pas... C'est pas les admonestations qui vont le motiver. C'est seulement s'il y trouve du plaisir, de la fierté, puis un lien avec le monde contemporain.
Et s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a largement dépassé l'heure. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. André, merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Oui. Alors, je suis au conseil d'administration du Wapikoni. Je vais leur transmettre la réception magnifique qu'on a eue ici. Et aussi, il y a un site wapikoni.ca. Il est nouveau, là, puis ça, hein, même la magie des Blancs, là, ça ne marche pas toujours. C'est un nouveau site et il n'est pas encore préparé à ce que tous les films soient dessus. Mais l'ambition, c'est d'avoir tous les 1000 films sur le site. Mais déjà, si vous allez à wapikoni.ca, vous allez avoir l'annexe libre. Tous ces films-là sont libres de droit. Et il y a plein de courts-métrages. Et c'est bien divisé par année, escale, nation, cinéaste. Alors, c'est une source formidable. Et puis, les films sont bons. Alors, c'est intéressant.
Voilà. Et oui, juste, moi, la dernière fois que j'ai essayé de le consulter, il était un peu en maintenance, mais je pense que c'est bientôt prêt. Voilà.
Voilà.
Mais en tout cas, merci beaucoup.